La geek de service.
Aujourd'hui, j'ai pensé vous partager les différents réseaux sociaux que j'utilise, comment je les utilise, pourquoi, les difficultés que je rencontre avec certains des réseaux sociaux, puis un paquet de petites astuces, de petits sites qui nous aident dans cette gestion des réseaux sociaux et autres. Je veux aussi amener la réflexion par ma transparence et de mes opinions sur ceux-ci, peut-être de vous amener à vous dire qu'un tel réseau n'est pas pour vous et que c'est bien correct, même si tout le monde a l'air là-dessus, mais de vous amener aussi qu'il y a certains réseaux sociaux que vous aviez peut-être mis de côté, mais qui pourraient être utilisés à d'autres sources. Donc, je pars. Mon premier réseau social, c'est bien sûr Facebook. C'est celui que j'utilise depuis plus longtemps. Je sais qu'on entend parler d'un paquet de choses que les gens délaissent Facebook. Il y a de moins en moins de jeunes sur Facebook. Mais je dois avouer que c'est encore un réseau qui est très présent dans ma vie. Ça me permet de me rapprocher d'un paquet de gens, de rester en contact avec famille et amis. Il y a des enfants de cousins-cousines que j'ai vus grandir sur les réseaux sociaux et que je n'ai même pas eu la chance de rencontrer parce qu'ils habitent, par exemple, à l'autre bout du pays. C'est donc une espèce d'attachement que j'ai à Facebook au niveau de mon profil personnel. Au niveau professionnel, bien, je me suis abonnée à un paquet de groupes. Je fais régulièrement du ménage, voir si c'est encore quelque chose qui répond à mes besoins. Des groupes pour le professionnel, mais parfois pour le personnel aussi, sur certains intérêts. Donc, c'est possible de mixer les deux, ce que j'aime beaucoup. Donc, la plateforme me permet de m'asseoir et de zioter, par exemple, et d'y voir autant des photos des enfants, des amis, qu'un partage d'un resto qui me semble intéressant, qu'un partage professionnel sur un groupe avec un échange sur un nouvel outil que je connaissais pas. Donc, c'est sûr qu'il prend quand même beaucoup de place. J'essaie de réduire mon utilisation, mais c'est quelque chose que je regarde à tous les jours. Je tente quand même d'être prudente sur mon profil personnel, dans mes propos. Je suis tout à fait à l'aise avec mes paramètres de sécurité. C'est quelque chose que d'ailleurs je vérifie à chaque mois, que je vous invite à faire la même chose, d'aller vraiment sur un ordinateur, sur Facebook, d'aller prendre le temps de lire chacun des paramètres. À quoi avez-vous donné l'autorisation? Autant à des pages que vous vous êtes abonné, de faire peut-être un ménage, de regarder si certaines de vos publications sont publiques puis ne devraient pas l'être. Parfois, on oublie d'aller changer des paramètres dans certaines choses puis là, boum, on a un paquet de publications qui sont publiques. C'est pas vraiment dommageable de mon côté, parce qu'à chaque fois, je me dis, ce que je publie là, je n'aurais pas de souci à ce que ça soit partagé ailleurs, mais ce n'est pas nécessairement des choses que j'aimerais qu'ils fassent le tour de la planète, même s'il n'y a aucune honte dans mes partages. J'essaie aussi d'être pas très... Je suis pas très polarisante sur mon profil personnel. J'aime pas m'engager dans des débats sans fin. C'est pas quelque chose qui me plaît. Je suis pas quelqu'un qui aime le conflit. Donc, souvent, je me retiens de m'exprimer sur un paquet de choses. Je garde ça pour quand on va avoir le droit autour d'une table avec un verre de vin puis de pouvoir vraiment s'exprimer. Parce que je trouve que parfois, par écrit, c'est difficile de laisser vraiment transparaître tout ce qu'on pense. Comme je disais, je fais quand même beaucoup de ménage parce que j'ai pas le goût de passer des heures et des heures à regarder du contenu qui ne me plaît pas. Je tiens à bien filtrer. Je pense que c'est le grand défi de 2021, mais de plusieurs années passées et à venir, que d'être capable de filtrer ce flot d'informations et de faire des choix. Donc, souvent, je vais aller voir les pages, les groupes auxquels j'étais abonnée et je vais faire un ménage. J'ai plus de difficultés à faire un ménage dans mon profil personnel au niveau des gens que je connais, mais ça m'est arrivé de, par exemple, utiliser la fonctionnalité qui disait de retirer de mon fil d'actualité. Si, par exemple, une personne que j'apprécie beaucoup, mais partage des choses qui viennent me chercher, joue un peu sur mon moral et tout, ben je peux utiliser la fonction de faire disparaître pendant 30 jours, par exemple, ou de faire complètement disparaître de mon fil. Ça ne veut pas dire que je peux pas aller voir le profil de cette personne-là, si le cœur m'en dit, puis aller, par exemple, commenter, mais au moins, je ne suis plus comme bombardée de l'information. Donc, c'est sûr que c'est dans des cas plus extrêmes que je fais ça, tandis que dans des groupes, ben après plusieurs partages, par exemple, qui me rejoignent pas, ou je m'étais abonnée, par exemple, à un groupe quelconque, puis finalement, ben c'est pas du tout les sujets que je m'attendais, ben j'hésite pas à me désabonner. Il faut d'ailleurs faire la différence entre le profil, les groupes et les pages parce que je me promène dans les trois. Un groupe, c'est vraiment des publications qui sont faites à un groupe spécifique de personnes. Parfois, elles sont sélectionnées, donc un groupe très restreint. Par exemple, j'ai un groupe avec les collaborateurs d'Espace Prof. On est seulement notre petit groupe à nous. Donc, ce qui se dit là-dessus est vraiment juste entre nous. On n'accepte pas d'autres membres dans le groupe parce que c'est un lieu pour échanger entre nous. Il y a des groupes qui, par contre, vont accepter vraiment tout le monde. Donc, ça va être très facile d'y accéder. D'autres vont demander de répondre à un petit questionnaire. Et c'est pour ça que parfois, on n'est pas capable de partager ce qu'on a trouvé dans un groupe. Je vois la question passer à peu près 10 fois par jour, mais je ne peux pas partager. Non, parce que tu es dans un groupe privé. Donc, c'est partagé seulement privé avec les gens. Par contre, souvent, si c'est quelque chose qui était repartagé, qui est public, par exemple, j'ai mis un lien d'un site web, ben on peut simplement ouvrir le site puis le repartager nous-mêmes sans partager ce que la personne a dit. Donc, les propos de la personne ne sont pas repartagés. Sinon, ben on peut toujours demander à la personne en question de nous faire suivre peut-être en privé ou autre, mais demander la permission. Un groupe, techniquement, ben on se partage entre nous. Donc, la bienséance voudrait qu'on demande la permission de la personne de toute façon, surtout si on repartage les propos que cette personne-là a dit. Si c'est pour repartager, par exemple, une annonce d'une auto à vendre, bien souvent, on peut cliquer sur l'annonce d'auto et là, le bouton « Partager » est là. Alors, on partage l'annonce et non ce que la personne a partagé et la phrase qu'elle a dit pour accompagner son partage. Une page, par contre, comme la page Facebook de la Geek de service, ça, c'est public. Donc, les gens décident d'aimer ou ne pas aimer, de s'abonner, de la voir passer. Donc, vous pourriez aller voir à quelle page vous êtes abonné, si vous avez cliqué « J'aime » ou « Je m'abonne » et faire des petits ménages pour voir, par exemple, moins de publications sur un sujet qui ne vous intéresse plus, par exemple. Je gère plusieurs page Facebook. Ce que j'aime, c'est que j'ai des données. Donc, en arrière, moi, je peux pas voir ce que vous avez aimé personnellement, mais je peux voir que telle publication a eu plus de portée, a été plus commentée que d'autres, voir ce que les gens aiment comme publication. Donc, ça, c'est ultra intéressant. Pour gérer des pages, pas les groupes, pas votre profil. Vraiment, si vous avez une page professionnelle que vous voulez créer, il y a des outils comme Facebook Creator Studio ou encore le Business Manager de Facebook qui vous permettent de programmer des publications, ce qui peut être super intéressant. Si on se met, par exemple, un dimanche matin à prévoir notre semaine de publication, bien, on n'a pas à tout publier le dimanche. Tout va être publié au moment qu'on a choisi. On a accès à plein de données statistiques sur les visites sur la page. Ça va même de nous dire quel outil est le plus utilisé. Est-ce que c'est plus sur un ordinateur ou sur un cellulaire? Est-ce que c'est plus des gens entre 35 et 45 ans? Donc, ça peut nous aider à savoir quoi publier. Ça nous permet aussi de lier notre compte Instagram dans les deux cas, ce qui peut être super pratique pour faire une seule publication sur vos pages qui va s'en aller dans deux réseaux différents. J'apprécie particulièrement là, cette fonctionnalité. Donc voilà de mon côté pour Facebook. Le suivant n'est pas un réseau social, mais je le mets quand même dans le lot parce que je l'utilise depuis plusieurs années. Si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés de ce réseau social, il y a qui n'en est pas un, mais que je ne sais pas trop comment appeler. Je l'appellerais un endroit d'inspiration, c'est Pinterest. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a un super épisode du balado Mon Carnet avec Marie-Joëlle Parent qui discute justement de Pinterest, les nouveautés, qui s'en sert et tout. Elle explique vraiment bien à quoi sert Pinterest, probablement mieux que je vais le faire dans quelques secondes. Moi, personnellement, j'utilise Pinterest qui est un réseau très visuel. Je le vois un peu comme un vision board, là, donc avec plein d'images qui sont partagées. On peut s'abonner à des gens qui publient un paquet d'images, de citations, de publicités, de autres. Il y a toutes sortes de choses là-dessus. C'est très visuel image, comme je disais. Donc, Parfois, il y a des vidéos aussi, mais majoritairement, moi, quand je fais des recherches, c'est surtout des images que j'utilise. À quoi ça me sert? Ben, c'est surtout au niveau personnel. Je dirais que dès que j'ai besoin d'inspiration pour une recherche, une recette, il me reste, je sais pas, moi, il me reste des poitrines de poulet, je sais pas quoi faire avec. Ben, je vais souvent aller sur Pinterest voir en images. Puis après ça, bien sûr, ça peut nous amener vers un site avec la description de la recette, mais des fois, juste l'image est assez d'inspiration pour faire « Ah oui, j'ai ça, je vais mixer ça ensemble. » Pour les recettes, d'ailleurs, j'aime bien partir de Pinterest, regarder un paquet de choses et transférer les recettes dans Whisk, qui est une petite application qui me permet de conserver puis mes recettes bien détaillées, puis de les mettre par collection, faire ma liste d'épicerie et tout. Donc, Whisk et Pinterest, c'est deux outils que j'utilise souvent ensemble. Ça me sert aussi pour un paquet d'autres petites choses. Par exemple, je vais avoir un chandail jaune moutarde, je ne sais pas avec quoi d'autre le mettre que le jeans avec lequel je le voyais. Ben souvent, je vais pouvoir aller chercher de l'inspiration mode dans Pinterest et refaire ma garde-robe, pas nécessairement dépasser, mais refaire ma garde-robe avec ma propre garde-robe avec un paquet d'images et d'inspiration. J'aime beaucoup aussi les différentes citations qui sont là, qui sont motivantes, qui souvent me servent de fond d'écran ou sont repartagées ailleurs parce qu'on peut souvent télécharger l'image et ensuite repartager sur Facebook ou autre quand on tombe sur quelque chose d'inspirant. Pour l'aménagement extérieur, ça m'a servi beaucoup dans les deux dernières années pour refaire la cour, repenser à des petits aménagements de patio et tout. De mon côté, j'en fais très peu d'utilisation techno-pédagogique. Donc, la geek va pas chercher ses idées là-dessus. Mais ça m'est arrivé par le passé d'aller chercher de l'inspiration, par exemple, pour des idées de rangement, des Chromebooks et des tablettes. Mais en cherchant dans Pinterest, mais là, on a un paquet de profs un peu partout dans le monde qui ont pris en photo comment ils ont rangé leurs différents appareils et ça peut nous inspirer pour un paquet de choses. Donc, souvent, je l'utilise quand je fais une recherche, que je veux des images rapides et pas une recherche Google qui va me présenter des textes, des vidéos et autres. Je veux juste visuellement quelque chose de rapide. Je l'utilise souvent en écoutant la télé. Donc, c'est rarement quelque chose que je vais m'asseoir et que je vais regarder pendant des heures. C'est souvent en faisant d'autres choses, un petit 5 minutes ici. Ben, je m'en vais sur Pinterest et sur notre page d'accueil, selon ce qu'on a aimé par le passé, à quoi on est abonné, ben, on nous propose des choses qui souvent rejoignent des petits intérêts personnels. Comme c'est mentionné dans l'entrevue de mon carnet, ben oui, effectivement, il y a beaucoup plus de filles, mais sur Pinterest, mais il y a beaucoup de gars qui s'en viennent, donc on va peut-être voir beaucoup de changements et ils sont en mode beaucoup d'aller chercher des créateurs de contenu. Je suis pas un créateur de contenu sur Pinterest. Je vois difficilement, à part peut-être certaines citations et autres que je pourrais repartager, mais je vois pas ce côté-là encore. Donc, je suis très en mode consommation, mais très ouverte à des idées de création avec Pinterest aussi. Je me suis déjà fait des collections au niveau de la pédagogie, au niveau de différentes choses. Et ce que j'aime, c'est qu'elles sont partageables très rapidement. Donc, je peux les partager avec un collègue. On peut se partir une liste et dire, ben on va tous mettre nos collections ensemble puis se partager ça. Puis voici, par exemple, 10 images qui te donnent des idées comment classer tes iPads dans ta classe, puis ça peut nous inspirer. Donc ça, ce côté-là, ben c'est un côté que j'apprécie beaucoup de Pinterest au niveau du travail. Au niveau personnel, ben c'est très relaxant regarder un paquet d'images sur des sujets de jardinage, de cuisine et autres qui nous intéressent puis nous font décrocher un peu. Le prochain, c'est Twitter. Il prend beaucoup de place dans ma vie, mais par contre, ça n'a pas toujours été le cas. Je vous dirais que j'ai fait beaucoup d'allers-retours. J'ai passé un petit peu de temps à créer mon compte, donc ça fait très longtemps que j'ai un compte, mais j'y allais, je comprenais pas trop, j'abandonnais, j'y revenais, j'allais vérifier certaines affaires, je m'abonnais à des comptes, surtout là sur les médias pour avoir des nouvelles, puis là, ben finalement, j'abdiquais. Mais depuis quelques années, c'est vraiment le réseau qui est mon incontournable, que je visite plusieurs fois par jour. Pas pour les mêmes raisons que Facebook. Facebook, je vais le visiter plusieurs fois par jour pour aller prendre des nouvelles de famille et amis. Twitter, ben il y a quand même plusieurs amis sur Twitter aussi, mais je vais plus y aller pour aller me ressourcer, chercher des ressources, des partages, des idées. Vraiment, au niveau professionnel, c'est mon incontournable. J'y vais matin, midi et soir. Je vais garder des moments pour aller visiter mon Twitter. Il y a des incontournables de gens que je suis sur Twitter. Je vais faire certaines recherches. Majoritairement, c'est plus, je vais regarder la page d'accueil, je vais dérouler et espérer tomber sur des choses intéressantes. Je dois avouer, par contre, que ça l'a un peu explosé, surtout depuis un an. Les choses s'entremêlent beaucoup. J'ai de plus en plus de gens qui partagent des choses personnelles sur Twitter et je les vois aussi passer sur Facebook. Donc, je trouve que ça se dédouble. Donc, je me questionne à savoir si je vais pas faire un petit filtre dans les choses que je suis. Par exemple, je suis beaucoup de médias, par exemple, la presse est sur mon Twitter, mais est aussi sur mon Facebook, puis est aussi dans l'application. Donc là, je me retrouve que je la vois trois fois la nouvelle. Donc, je vais peut-être me questionner à savoir est-ce que c'est quelque chose que je vais enlever, par exemple, de Facebook pour le garder plus personnel et le garder seulement sur Twitter. C'est ce que je veux essayer de voir parce que je trouve que parfois, l'information se dédouble. Donc, j'ai peut-être un petit ménage à faire et me questionner pour maximiser mon utilisation. J'utilise un outil qui s'appelle TweetDeck qui est disponible sur le web, majoritairement parce que j'ai plusieurs comptes Twitter. Donc, j'ai mon compte Twitter personnel, mais j'ai des comptes Twitter professionnels à gérer aussi. Je peux naviguer d'un à l'autre dans Twitter là, sur le web facilement, mais je trouve que TweetDeck m'offre des possibilités supplémentaires. Je l'utilise majoritairement pour les publications parce qu'ils me permettent de prévoir ma publication d'avance. Et si je l'ai prévue d'avance, elle est modifiable. Donc, si je me rends compte que j'ai fait une erreur, je peux aller la modifier avant qu'elle soit publiée. Donc, c'est un peu moins l'instantané que m'offre l'application sur mon cellulaire, par exemple, où là, je vais publier. Puis, si j'ai fait une faute, ben il est trop tard. La faute s'est propagée partout. Souvent, c'est déjà retweeté 8 fois. Donc, il est trop tard. Ma faute me suit partout. Donc, j'aime bien que TweetDeck me permette là de vraiment programmer mes publications. J'utilise très peu les autres fonctions de TweetDeck, mais sachez qu'il est possible d'organiser notre TweetDeck dans différentes colonnes et choisir ce que chaque colonne représente. On peut donc ajouter certaines personnes incontournables ou certaines entreprises incontournables qu'on suit et avoir toutes leurs publications, une en dessous de l'autre, là, dans une colonne. On peut suivre par mots-clés. On peut, par exemple, demander une colonne chaque fois qu'un nouvel abonné s'ajoute à notre compte. Donc, pour gérer ces réseaux sociaux, c'est très intéressant, mais j'ai rapidement délaissé, moi, c'était une surcharge cognitive d'informations sur la page. Donc, j'y vais pour prévoir mes publications. Je regarde un petit peu ce qui se passe dans mes différentes catégories, mais je préfère de loin, malgré l'algorithme qui va me faire manquer certaines choses, je préfère de loin utiliser l'application ou le site directement de Twitter pour naviguer. Ça, c'est la petite bête noire avec laquelle je me bats, cette espèce de « je vais manquer de l'information ». C'est tellement infini que c'est certain qu'on va manquer des choses et qu'on va manquer de l'information. J'écoute des balados, je suis plusieurs réseaux sociaux dont je vous parle aujourd'hui, j'ai des courriels, j'ai tout ça, et à un moment donné, il y a des choses qu'il faut abdiquer et qu'on va manquer l'info. On peut pas participer à tout, on peut pas être partout. Ça serait un petit peu comme dire, moi, je veux finir de lire l'Internet, comme si on voulait finir de lire un livre. Ben, je pense qu'on deviendrait fou. Donc, il faut voir tout ça comme une belle corne d'abondance où c'est toujours là, c'est disponible. On fera la recherche au Péralé si on a besoin. Puis le restant, ben, on papillonne puis on prend ce qu'on prend. J'essaie de le voir comme ça parce qu'effectivement, ça peut rapidement devenir un « mais là, je vais tout manquer si j'utilise pas TweetDeck pour tout suivre, par exemple, ou autre. » Les prochains réseaux sociaux dont je vous parle ont été ma bête noire pendant plusieurs années. Ce sont encore certains réseaux avec lesquels je me questionne, à savoir si je les abandonne complètement ou je continue à simplement papillonner. Le premier, c'est TikTok. J'ai résisté pendant plusieurs années alors que plein de collègues m'en parlaient, alors que les enfants m'en parlaient, alors que les élèves en parlaient. Je voyais pas la pertinence. Ce que je lisais m'intéressait pas. Je suis pas quelqu'un qui est très je me filme et je me mets sur les réseaux sociaux. Je suis toujours mal à l'aise devant une caméra. Je suis bien plus à l'aise présentement derrière mon micro. Et malgré tout, dès que je vais vous envoyer l'épisode, je vais avoir un sentiment d'imposteur, de me dire, ouf, je suis pas certaine. Donc là, moi, me filmer pour faire des blagues et les envoyer sur les réseaux sociaux, ça ne me parlait pas du tout. La pandémie me donnant plus de temps pour explorer, j'ai décidé d'y aller par intérêt professionnel en me disant, ben, si nos jeunes sont là-dessus, il faudrait peut-être que je comprenne un peu le phénomène, que je comprenne qu'est-ce que c'est. Et je dois avouer qu'un qui m'a influencé, c'est Matt Miller de Ditch That Textbook, qui a beaucoup parlé de TikTok et qui s'est mis à faire des capsules sur TikTok que je voyais passer dans son infolettre. Puis je me suis dit, bon, il doit avoir quelque chose là. Je vais l'essayer et c'est devenu un coup de cœur incontournable. En soirée, je prends toujours un 15-20 minutes. J'essaie de me restreindre parce que c'est facile de tomber là-dedans et de ne plus s'arrêter. J'essaie de prendre un 15-20 minutes en soirée pour écouter un paquet de petites vidéos. Je me dis, bon, puis à 9 h, j'arrête. Je prends un petit moment. Je ris aux éclats à chaque fois. C'est vraiment un moment relaxant. Il y a des choses très, très drôle, très, très créative sur TikTok. J'y découvre aussi un paquet d'astuces techno. Je pensais pas découvrir autant sur la technologie. Des fois, des petits moments de nostalgie, là. Dernièrement, je suis tombée sur un paquet de petites vidéos qui me montraient des ordinateurs qu'on avait avant, là, avec le modem qui se connectait au téléphone. C'était très drôle de vivre le moment de nostalgie. Souvent, des blagues qui ont été faites, là, aux dépens de quelqu'un d'autre. Des fois, sont drôles. Des fois, c'est un peu... ça laisse à désirer, mais l'algorithme, éventuellement, plus on aime des choses, plus il nous montre les mêmes choses. J'aime beaucoup voir un paquet d'enseignants super créatifs qui nous montrent des astuces. Je pense entre autres à un des comptes que je suis, qui est une jeune prof qui fait de la suppléance aux États-Unis, mais qui montre toutes ces petites astuces qu'elle a là pour tisser le lien avec les élèves quand elle entre dans une classe de primaire, là, les petites blagues qu'elle leur fait pour pouvoir tisser le lien avec eux puis rendre sa suppléance agréable. C'est toujours fascinant de voir les petites astuces, les petits mini hacks d'élèves qui essaient de montrer comment tricher dans un Google formulaire ou comment gagner un petit peu une extension de temps en envoyant un fichier qui ne fonctionne pas pour pouvoir avoir 2 jours de plus pour faire son travail. Je trouve ça intéressant de le voir. Un, ils m'impressionnent par leur créativité. Bon, j'aimerais mieux que la créativité soit utilisée pour faire avancer les choses que pour tricher, mais c'est quand même beau de voir toute leur intelligence et leur créativité. Puis, ça me permet de faire, ah, bon, OK, j'avais pas pensé à cette façon de faire là. On va trouver d'autres façons. On va changer l'évaluation. D'ailleurs, de toute façon, s'ils sont capables de tricher, peut-être que l'évaluation au départ avait besoin d'être réfléchie autrement, mais je trouve ça particulièrement intéressant. Il y a de plus en plus de contenu francophone, québécois. Je trouve ça vraiment intéressant. Je suis, par exemple, des comptes où c'est des astuces de psy. Donc, très, très rapide, une petite astuce pour justement gérer le syndrome de l'imposteur ou autre. Donc, des moments cocasses, des moments d'information. C'est vraiment un réseau que je suis pas prête encore à explorer au niveau de la création de contenu. Peut-être qu'éventuellement vous verrez la geek sur TikTok, je sais pas. Pour l'instant, ben j'ai pas assez de temps pour dire que je me lance là-dedans. Faudrait que je délaisse autre chose. À voir, à suivre. Mais c'est intéressant de le découvrir. Instagram est un incontournable, mais est une belle bête noire pour moi, pour la même raison dont je viens de vous parler avec TikTok. Je suis pas très vidéo. J'aime prendre des photos. Par contre, là, avec la pandémie, on en prend beaucoup moins parce que j'aimais partir à l'aventure, sortir, partir en voyage, partir sur un coup de tête et partir en auto, prendre un paquet de photos. Et là, ben effectivement, de mettre ces photos-là sur Instagram, ça fonctionnait pour moi. Mais par contre, au niveau professionnel, je le trouve un petit peu plus difficile parce que on n'est pas capable d'insérer des liens dans l'espèce d'explication sous la publication. Je sais très bien qu'on va me répondre, oui, mais tu mets le lien dans ta bio. Oui, je comprends. Il faut que j'aille changer ma bio chaque fois que je publie quelque chose. Donc, je trouve pas ça si intuitif que ça pour être en mode partage. Regardez ce que je viens de découvrir. Tel site est intéressant. Il faut que je pense à une image pour aller avec le site. Il faut que je pense à aller changer mon lien dans ma bio. Donc, pour ce côté-là de mon mode de fonctionnement actuel, il ne répond pas à mes besoins. Par contre, je suis présente sur Instagram depuis plusieurs années. Je zieute. Je vais voir ce qui s'y fait. Je partage surtout des images au niveau personnel, au niveau de notre page professionnelle de mon équipe. Mais dès que c'est possible, dès que c'est une infographie, c'est certain qu'elle peut aller là. J'essaie parfois d'utiliser une image. Par exemple, on a mis quelque chose de nouveau sur le site web. Ben, je vais aller mettre une image de où ça se trouve sur le site web. Mais disons que c'est encore une petite bête noire pour moi, cet outil. J'apprécie par contre, comme je l'ai mentionné pour Facebook, de pouvoir utiliser des outils comme le Business Manager de Facebook ou le Creator Studio qui me permettent de publier aux deux places. Donc, dès que c'est possible, c'est par là que je vais passer parce que je vais me dire je peux faire une publication qui s'en va à deux endroits différents. Donc, c'est très intéressant. L'autre petite bête noire, c'est LinkedIn. Je pense qu'on s'est tous fait un compte LinkedIn, puis après ça, on n'a pas fait grand-chose avec ça. Je dois avouer que je suis coupable de la même chose. Je sais que c'est devenu beaucoup plus un réseau d'échange. Mon conjoint qui travaille en entreprise s'en sert beaucoup plus régulièrement que moi, va aller lire des articles, va suivre des choses d'actualité. J'ai pas trouvé mon compte encore de ce côté-là, mais je dois dire que je l'ai négligé. Par contre, ce que je ne néglige jamais, c'est d'aller mettre à jour mon profil sur LinkedIn, parce que c'est assez fréquent qu'on va voir « je suis qui » en allant voir sur LinkedIn. Quand on va taper notre nom dans Google, c'est quelque chose qui va sortir aussi. Donc, si vous ne l'avez pas mis à jour, minimalement, j'irai quand même aller ajuster mon profil. Vous ne savez jamais quand est-ce qu'une opportunité va s'ouvrir. Je ne parle pas d'être en recherche d'emploi, je ne le suis pas du tout, mais ça m'a ouvert la porte parfois à des chercheurs qui cherchaient des gens pour une recherche sur laquelle ils travaillaient en technopédagogie, par exemple, à une entreprise qui est en développement puis qui a des questions, qui aimerait tester, par exemple, une nouvelle technologie puis qui cherche des gens. Puis ça peut créer ce genre de relations-là qui peuvent être très intéressantes. Puis c'est sûr que si notre CV n'a pas été mis à jour sur LinkedIn, nos infos datent d'il y a 12 ans, bien, on risque peut-être de passer à côté des opportunités. Une chose qui me tapait royalement sur les nerfs avec LinkedIn, c'était tous ces joyeux anniversaires de travail. Je vais vous mettre le lien dans l'épisode, mais François Charron a fait une petite chronique là-dessus et ça a été très révélateur pour moi. J'ai pu aller enlever cette fonction-là et là, je reçois plus de bonnes fêtes parce que ça fait tant d'années que je travaille dans mon milieu ou que je m'étais mis, par exemple, que je faisais du bénévolat pour telle organisation. Puis là, à chaque année, je reçois une panoplie de mais félicitations, ça fait 2 ans que vous travaillez pour telle entreprise. Il y a moyen de l'enlever, ce côté-là, qui pour moi est vraiment pas nécessaire. C'était quelque chose que j'essayais de ne pas faire non plus, là, les petits messages automatisés. Souhaitez-lui joyeux anniversaire de travail, surtout pour des gens dont j'étais pas nécessairement proche de recevoir là, 50 félicitations pour vos 2 ans dans l'entreprise. C'était peut-être pas, c'est très... très énergivore pour rien. Donc, je vous mets ça dans l'épisode pour aller l'enlever si votre LinkedIn vous tape ses nerfs. Puis, je vous invite à aller voir vos notifications puis aller mettre à jour minimalement votre CV là-dessus. Vous avez aucune idée si ça peut vous ouvrir des portes avec un autre collègue, quelqu'un qui a envie d'explorer, par exemple, la réalité augmentée dans des classes. Puis, vous, c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis là, vous allez être mis en contact puis aller peut-être développer un projet avec un chercheur d'université, qui sait, ça peut être intéressant d'aller mettre vos intérêts. D'ailleurs, je suis due pour aller faire un petit tour. N'hésitez pas à aller mettre aussi tous les badges que vous allez chercher si vous participez à un congrès ou autre. Voyez-le un peu comme votre CV en ligne. De mon côté, ça fait partie de ma liste là, interminable de choses à explorer. Je vais aller l'explorer un petit peu plus pour son côté réseautage, aller voir au niveau de la technologie qu'est-ce qu'il y a là-dessus qui pourrait être intéressant pour moi. Mais minimalement, je vais m'assurer qu'il soit à jour pour qu'on puisse me trouver facilement. Je termine avec les petits nouveaux, les Clubhouse et Spaces de Twitter qui sortent. Puis je mets dans ça aussi tous les lives Facebook, Instagram et autres qui s'ajoutent à la liste d'événements complètement gratuits où on peut participer, échanger, commenter et tout. Pour le moment, je vous dirais que je cible peut-être un événement par semaine maximum. Puis il y a des semaines que c'est trop puis que je ne peux pas participer aux webinaires en ligne. La majorité des webinaires, de toute façon, souvent quand on s'inscrit, peuvent nous les envoyer par la suite. Puis je préfère beaucoup ça pour pouvoir l'écouter quand j'ai le temps. Ça fait par contre que je dirais qu'il y en a la moitié que j'écoute pas ou plus même. J'ai participé dernièrement à plusieurs événements sur Clubhouse que j'aime beaucoup. Pour son côté, on peut simplement écouter ou participer. C'est un peu un balado interactif, donc c'est un peu avoir moins l'impression de se parler tout seul comme moi présentement. Mais par contre, là, il y en a beaucoup. J'ai enlevé toutes les notifications de Clubhouse parce que ça m'invitait à des événements, là, j'y aurais passé ma vie. Et je choisis à la place de voir ce qui se passe un peu plus sur mon Twitter et mon Facebook et de voir les événements qui sont organisés par des gens que je suis déjà ailleurs, de me le mettre à mon agenda et d'y assister un peu comme on assisterait à une conférence à une heure précise plutôt que de papillonner. Mais ça, c'est moi, à vous de voir. Ça revient à mon propos de tantôt. C'est facile de s'y perdre. On a beaucoup de choix. Il faut faire des choix. On peut pas être partout. Il y a des super événements. J'ai vu, par exemple, Ludoka, les dimanches soirs que j'ai même pas eu le temps encore de m'asseoir et écouter. On n'a pas le choix de faire des choix déchirants. Il faut aussi faut avoir une vie, puis il faut décrocher. Mais l'offre, elle est explosive en éducation. Je pense aussi aux balados. Je pense qu'il y a des nouveaux balados qui sortent à tous les jours. Donc, mon propos aujourd'hui était plus, voici des réseaux, voici ce que ça peut faire, faites des choix. Il y en a, par exemple, Instagram, des fois, ça peut faire 3 semaines que je suis pas allée dessus, puis que je suis pas allée voir, puis j'ai jamais reçu un courriel de bêtises ou un message de quelqu'un qui me dit, il me semble que t'es pas allée sur ton Instagram depuis longtemps. Allez-y, comme vous le sentez, s'il y a des réseaux qui vous rebutent, Clubhouse, ça vous tente pas, mais vous êtes pas obligé parce que, y a un paquet de monde qui parle de ça sur Twitter et autres. On n'est jamais obligé de participer à tout. Vous allez trouver votre compte. Il y a tellement de choix. Vous allez trouver votre façon à vous d'utiliser les outils. Mais je trouve ça intéressant de les explorer. Un, pour savoir ce qui existe. Deux, pour savoir ce qu'on aime, puis se découvrir nous-mêmes. Puis trois, si vous êtes en éducation ou vous avez des enfants, mais pour savoir ils font quoi avec ça, puis il y a quoi là-dessus, puis comprendre un petit peu plus le phénomène. Puis des fois, on peut juste le regarder un petit peu, puis abandonner après, il n'y a pas de souci non plus. Je vous invite à me partager vos trucs et astuces, me parler de votre utilisation des réseaux sociaux, peut-être d'outils pour les gérer que je n'ai pas mentionnés. Pour ce faire, vous avez deux façons. Vous pouvez bien sûr m'écrire, fait qu'il y en a plus que deux façons, mais j'aimerais vous entendre à l'audio, puis peut-être même vous ajouter à l'épisode et ajouter vos partages pour que ce soit encore plus interactif. Je suis pas la seule geek de service, il y en a plusieurs. Donc, plusieurs façons de m'envoyer un petit message. Premièrement, sur la page anchor.fm/la geek de service, qui est la page d'accueil sur Anchor, vous avez un petit bouton qui dit « Message ». Quand on clique là-dessus, on peut laisser un message vocal que je vais recevoir et que je peux ajouter à l'épisode. Sinon, vous pouvez passer aussi par mon blog, lageekdeservice.com. Si vous regardez à droite dans les menus, vous allez avoir une option qui vous dit me laisser un message vocal. Et quand vous cliquez, vous tombez sur un site qui s'appelle SpeakPipe, qui fait un peu la même chose que celui d'Anchor et vous permet de me laisser un message vocal. Il y a un gros bouton Start Recording en plein milieu. Vous autorisez votre micro et vous parlez. Je vais recevoir votre message vocal. Si vous ne voulez pas que votre message vocal soit utilisé dans l'épisode, bien, je vous invite à simplement m'écrire votre question ou votre propos, puis je pourrai en parler verbalement sans que ce soit votre voix. Soyez tout à fait à l'aise, mais ce serait le fun d'entendre vos différentes astuces, votre réseau social préféré, comment vous gérez ça, pourquoi vous l'utilisez, avez-vous des outils qui vous aident avec cette gestion-là ou même à gérer de l'utiliser moins. J'aimerais vous entendre. Donc, à bientôt!